Bienvenue sur Racisme, des mots sur les mots, un podcast créé par la section Lilloise de la Ligue des droits de l'homme. Chaque année en France, au moins 1 million de personnes sont victimes de racisme. Seuls 3% portent plainte. Ainsi, la LDH a souhaité redonner la parole aux concernés. Pour ce faire, nous avons parcouru le Nord afin de recueillir des témoignages et fait appel à des sociologues, des historiens, des juristes et des militants dans le but d'inscrire le vécu individuel dans une réalité collective. À l'école, les discriminations racistes sont omniprésentes, nous l'avons entendu dans un autre épisode. La laïcité y est instrumentalisée, utilisée comme un argument pour justifier des politiques et des usages discriminatoires et racistes.
Ben pour ma fille, oui, elle a été discriminée à l'école de sa par sa couleur de peau, ses cheveux assez bouclés, typés, malgré que c'est une fille assez studieuse. C'était des remarques soit par les professeurs, soit par les élèves. Après, ça a subi du harcèlement. On l'appelle le mouton. Voilà. Je me rappelle aussi qu'il y avait une professeure qui était noire de peau et du coup il y a un élève qui lui a dit ah ben ta cousine elle est là voilà et c'est toujours des petites piques comme ça ou bien la prof de maths par exemple ma fille est arrivée avec un petit bandana sur la tête voilà parce qu'elle a les cheveux bouclés c'était juste pour maintenir un peu ses cheveux et la prof est directement venue vers elle en lui disant ouais est-ce que c'est un couvre-chef que tu as sur la tête alors que c'est juste un petit bandana et elle le voyait bien hein. Je suppose que c'était un petit bandana qui se vend partout donc voilà c'était des petites réflexions comme ça qui reviennent comme ça mais c'est vrai que ma fille au départ elle le vivait mal maintenant je pense qu'elle se dit que ses cheveux bouclés elle apprécie et voilà mais c'est vrai que les premières années au collège ça a été difficile pour elle des remarques et c'était la seule fille on va dire typée de sa classe donc forcément ça laisse des traces.
Vanny Laborde, maîtresse de conférences contractuelles en sciences politiques à l'université Toulouse Capitole, chercheuse au laboratoire Mésopolis et IDETCOM.
Alors, ce type de témoignage, il est malheureusement assez courant et surtout il est extrêmement révélateur. Il met en lumière plusieurs choses. En premier lieu, il met en lumière comment l'école est un lieu d'expérience de racisation ordinaire, hein, des moqueries sur les cheveux, sur la couleur de peau, des assignations ethniques qui vont jusqu'au harcèlement entre élèves, avec évidemment des effets durables sur l'estime de soi. Mais surtout, c'est en particulier ce qui m'intéresse dans mon travail, on voit dans ce témoignage la manière dont l'institution scolaire elle-même participe à cette dynamique de racisation, racialisation. Parce que dans ce que raconte cette mère d'élève, on perçoit comment un simple accessoire de mode assez ordinaire, hein, le bandana, est interprété immédiatement par une enseignante comme potentiellement problématique, sous-entendu au regard de ce que seraient les principes de laïcité. Ce que je montre dans mon travail, c'est que ces interprétations, elles relèvent pas simplement de sensibilité individuelle, de la subjectivité de l'acteur, etc., mais elles s'inscrivent dans un contexte où la laïcité, ça devient un instrument de surveillance des corps, de surveillance des apparences, et certaines politiques publiques légitiment le fait que cette surveillance, elle s'exerce à l'égard d'élèves plus exposés au regard, plus exposés au contrôle et aux soupçons que d'autres.
Emmanuelle Jourdan-Chartier, vice-présidente de la LDH.
La laïcité en France a été instaurée par la loi de 1905, c'est une loi de liberté, une loi qui met fin au culte reconnu, qui proclame la liberté de conscience et la liberté de culte. Du principe de la séparation découlent des exigences de neutralité religieuse de l'État, et c'est cette neutralité de l'État qui protège la liberté religieuse des citoyens et des citoyennes. Mais la laïcité n'est pas une offensive anti-religieuse, ni l'outil d'une affirmation identitaire. Pour autant, aujourd'hui, le mot est parfois vidé de son sens, il est affublé d'adjectifs multiples, et on confond la laïcité avec la neutralité, et on confond la neutralité de l'État avec la neutralisation de la société. On glisse d'un principe juridique vers la défense d'une morale ou de valeur, et la laïcité devient un outil de contrôle, alors que ça devrait être exactement l'inverse. La laïcité, c'est la liberté de conscience, c'est l'égalité, c'est un cadre qui nous permet de construire un espace commun avec la diversité des cultures, des choix individuels, des croyances pour vivre ensemble.
Une syndicaliste de Sud Éducation nous raconte les pressions que les professeurs subissent par la hiérarchie.
Enfin, on nous demande toujours, en tant que prof, on nous demande des choses hallucinantes. La circulaire Abaya, donc, celle qui a été proposée par Gabriel Attal, où il s'agissait de savoir si les jupes étaient trop longues, de quelle couleur, comment est-ce qu'on fait pour savoir si c'est censé être représenté une religion ou non. On le fait forcément, il y a forcément une discrimination derrière. On nous demande d'avoir des pratiques racistes. Parce que comment on sait si c'est lié à l'islam ou non? Eh bien, c'est forcément, on regarde la tête de l'élève, on regarde le prénom de l'élève, le nom de l'élève, on essaye de se faire toute une idée en tête. Ah ben oui, peut-être ses parents, ils viennent de là, ils pratiquent telle religion, donc elle porte une robe longue. Ça n'a, mais c'est complètement fou. Et c'est demandé. Et c'est demandé, c'est exigé de notre hiérarchie de surveiller la longueur des jupes.
Changer d'essai. Et en gros, tout allait bien, sauf à partir du moment où, du coup, il y a des surveillants qui m'ont vue avec mon voile. Et moi, il faut savoir que je mets la plupart du temps des jupes longues. Et je venais en cours, et il y avait les directeurs, le directeur adjoint, la CPE, enfin, on va dire un peu toutes les personnes qui gèrent l'établissement, qui étaient à l'accueil, et qui m'attendaient le matin pour vérifier mes tenues. Et le directeur lui-même, il venait me voir, et à un moment, il m'a demandé de soulever ma jupe, pour vérifier si, genre, j'avais pas une abaya, si c'était pas... Voilà. Moi, faut savoir que je suis vraiment plutôt bonne en cours, même si... Enfin, je suis pas le genre d'élève, on va dire, à être très, très, très sérieuse. Et du coup, c'était le conseil de classe, et mes délégués, ils y vont. Et je demande un retour, comme tout le monde demande à chaque fois un retour. Et au conseil de classe, au lieu de parler de moi, de mon avenir, de dire, je sais pas, des trucs pertinents, ils ont dit, en gros, ils ont parlé de mon voile. En gros, parce que je suis voilée, ils ont dit, oui, on comprend vraiment pas comment elle peut avoir ces notes-là. Elle doit être issue d'un établissement de luxe, on va dire, enfin, un établissement prestigieux, très sélectif, parce qu'on comprend pas comment elle peut avoir ces notes-là.
Donc, dans ma thèse, j'étudie un dispositif de signalement des dites atteintes à la laïcité dans l'éducation nationale, qui a été mis en place début 2018, sous le mandat de Jean-Michel Blanquer. Le principe est assez simple, hein, il fonctionne sur un mode pyramidal, c'est-à-dire qu'en établissement, les personnels vont signaler les faits survenus dans leur école, collège ou lycée. Ensuite, dans chaque rectorat, il y a des équipes académiques laïcité et valeurs de la République qui sont chargées de traiter ces signalements. Et à l'échelle centrale, une équipe nationale laïcité qui travaille en collaboration avec une instance d'experts, le Conseil des sages de la laïcité. Alors sur le papier, l'objectif affiché est double, c'est-à-dire d'une part garantir l'application du principe de laïcité à l'école, et d'autre part offrir un soutien au personnel qui se sentent parfois démunis face à certaines situations. Ce que je montre, c'est que le fonctionnement réel et les enjeux de ce dispositif sont en fait plus complexes. D'abord parce que ce qui est signalé sous cette catégorie atteinte à la laïcité, qui est assez floue et plutôt mal définie, ça recouvre des réalités très hétérogènes. Ensuite, plus complexe parce que ce dispositif de signalement, il sert avant tout à afficher le volontarisme politique. Par exemple, ils vont bricoler avec les statistiques, gonfler les chiffres d'atteinte à la laïcité, pour alimenter sur les scènes publiques un récit de crise, de façon en fait à justifier une action gouvernementale intransigeante en matière de laïcité. Dans les faits, il y a environ 3/4 des signalements qui visent des comportements attribués à des personnes qu'on suppose musulmanes, et ça vient pas de nulle part. C'est-à-dire qu'implicitement, l'islam, c'est bel et bien le cœur de cible de cette surveillance institutionnelle. Je montre que des faits similaires vont avoir tendance à être interprétés et catégorisés différemment selon l'identité perçue des personnes concernées. J'ai observé comment l'éducation nationale enrôle les personnels dans la surveillance de l'islam, et en particulier des quartiers populaires, où en fait, il s'agit, à travers ce dispositif relatif aux atteintes à la laïcité, de traquer ce qu'on appelle les signaux faibles de radicalisation. Donc la surveillance déborde largement du cadre pédagogique. Hein. Sous couvert de laïcité, on mesure la longueur d'une jupe, on s'inquiète du changement de tenue d'une mère d'élève, ou on signale l'usage de la langue arabe ou d'expressions comme « wallah », voilà, des choses de ce type. D'ailleurs, cette logique du soupçon, elle ne s'arrête pas aux élèves. Elle touche aussi les personnels perçus comme musulmans, qui vont être considérés comme suspects et dont on remet en cause le professionnalisme. Finalement, ce que je montre, c'est que la laïcité devient, en l'occurrence, un instrument de disciplinarisation et de stigmatisation des minorités musulmanes. Bien évidemment, c'est logique, elles ne sont pas toujours conscientes, mais elles participent bel et bien à la production de rapports sociaux inégalitaires au sein de l'école.
Merci d'avoir écouté l'épisode « Lutte contre le racisme à l'école, peut mieux faire ». Merci à tous ceux qui ont soutenu ce projet en apportant leur perspective. Merci aux centres sociaux partenaires et merci infiniment à tous ceux qui ont partagé leur vécu pour rendre possible cet épisode. Victimes ou témoins de racisme, d'antisémitisme ou d'islamophobie, appelez le défenseur des droits au 39 28. Ce projet est soutenu par la DILCRA et réalisé en partenariat avec Radio Campus, Radio Moulin, Mythe FM et Pastel FM. Luttons ensemble contre l'invisibilisation et la banalisation des racismes.